La chronique de Marc-Antoine Godin est une présentation d'Athlétique.com, le plus grand magazine web quotidien de sport en Amérique. Profitez de 40% de rabais sur votre première année d'abonnement en allant au athlétique.com/l'amour du hockey.
Dégelé du Canadien hier sur les Jets, victoire de 7-1. Ça fait du bien d'employer des mots comme dégelé, victoire cuisante. Et ça tombe à point pour pas mal tout le monde, je pense. Ça permet aux partisans de souffler un peu, de retrouver leur calme. Ça permet à Dominique Ducharme de mieux respirer aussi. Donc, à Bergevin d'en faire autant par le fait même. Et c'est une victoire qui fait beaucoup de bien probablement à Carey Price, qui semble avoir retrouvé un brin de confiance, même s'il n'a pas été testé tant que ça hier. Marc-Antoine Godin, salut!
Bonjour, comment ça va, Evelyne?
Ça va bien, toi aussi?
Ça va bien, ça a été thérapeutique pour moi aussi, cette victoire-là.
Oui, ça t'a fait du bien, je voyais ça dans ton humeur, dans tes tweets notamment, oui.
Oui, mais écoute, c'est bon, on le prend pendant que ça passe. Hein?
Ben, c'est ça, est-ce que ça... Là, on a retrouvé l'équipe du début de saison. Tout a fonctionné. Ouais. Est-ce que ça fait juste passer puis ça va redescendre? C'est-tu là pour rester?
Ben écoute, c'est sûr qu'il n'y aura pas de festival offensif de cette manière-là tous les soirs. C'est quand même rare, ne serait-ce que non seulement 7 buts, mais ne serait-ce que de voir les 4 trios s'inscrire au pointage. Oui. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Je pense qu'il y a le rééquilibre de l'attaque a été causé, je pense, entre autres par le retour au jeu de Josh Anderson, qui a fait une grosse différence. Ça a permis, entre autres, à Dominique Ducharme de créer cet intriguant troisième trio avec Kotkaniemi et Toffoli. Mm-hmm. Alors, est-ce que ça va être comme ça? Je pense que c'est le genre de match qui peut certainement aider le Canadien à se remettre sur les rails et à retrouver de la confiance au plan offensif. Mais même s'ils ont gagné 7-1, même s'il y avait un jeu blanc dans la mire de Carey Price jusqu'à ce qu'il y ait une pénalité en milieu de troisième période, je te dirais qu'au plan défensif, j'ai pas été emballé par la performance des défenseurs, surtout pour ce qui était de sortir la rondelle de la zone. La fameuse première passe, on dit tout le temps, ah ben ce gars-là fait une bonne première passe, comme si c'est quelque chose qui était facile à exécuter, mais on le voit chez le Canadien, les défenseurs de l'équipe ont de la misère à ce niveau-là, ils en ont eu, à mon avis, encore hier, sauf que les attaquants ont été extrêmement actifs pour leur venir en aide, pour orchestrer eux-mêmes la transition puis se porter à l'attaque. Donc, le groupe d'attaquants hier, à mon sens, a été vraiment... C'est ce qui a fait la différence dans cette victoire-là. Puis tu disais que Carey Price n'a pas été très testé, c'est vrai, mais en même temps, j'ai trouvé que, tu sais, en langage des gardiens de but, on dit qu'il est un gardien square. J'ai trouvé qu'il confrontait les lancers de manière... Il semblait voir les lancers beaucoup mieux que par le passé. Il évitait de se laisser déporter. Il était agressif sur les retours de lancer. C'était une belle performance de la part de Price.
Mm-hmm. Ben oui, c'est sûr que, en tout cas, tu sais, même s'il n'avait pas été beaucoup utilisé, juste d'avoir sur papier un chiffre comme 7-1 puis une victoire, ça te remet sur le bon pied pour la suite des choses. Là, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai aimé aussi hier, on l'a dit, là, tous les trios ont contribué. On a donc retrouvé le fondement de cette équipe-là, hein, qui est bâti dans une profondeur avant tout. Et ce que j'ai aimé, c'est un détail, mais quand même, sur le mental, ça peut jouer, c'est qu'il y a plusieurs petits plateaux qui ont été atteints. 10 buts, Gallagher, qui a maintenant 10 buts, Josh Anderson aussi, 10 buts, et je lève mon chapeau à Tyler Toffoli, qui est bien classé depuis le début de la saison, mais là, présentement, il est deuxième meilleur marqueur de la Ligue aussi, là, derrière Austin Matthews. Donc ça aussi, ça peut redonner confiance à un club, là.
Ben oui, puis en plus, Toffoli, il retourne dans son magasin de bonbons. Ouais. Hein, il s'en va à Vancouver.
Oh, du fun.
Alors, on espère qu'il va garder sa touche là-bas. C'est vraiment l'endroit qui fait toute la différence pour lui. Tu sais, on dit, il y a une expression qui est empruntée au baseball. On parle de Cy Young. Les lanceurs au baseball qui gagnent le trophée Cy Young ont souvent une belle fiche de victoires défaites. Donc, je ne sais pas moi, 18 victoires, 5 défaites, quelque chose comme ça. Et au hockey, quand on applique ça, le Cy Young, c'est celui qui a beaucoup plus de buts que de passes. Alors, on a quelques Cy Young chez le Canadien. Tu les as nommés Anderson, Gallagher et particulièrement Toffoli. Ces gars-là sont vraiment cruciaux dans les succès du Canadien parce que après un très, très bon début de saison, Nick Suzuki semble avoir ralenti un petit peu. Puis c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est à l'aile en ce moment qu'on génère le plus d'attaques, plus qu'à partir du centre. Mais comme je te disais tout à l'heure, d'avoir Toffoli et Anderson avec Kotkaniemi, je trouve ça très intriguant parce que là, le Canadien semble avoir un duo très stable en Suzuki et Drouin. Ça a été un peu plus tranquille pour eux hier, mais je pense que Drouin est un joueur transformé depuis l'arrivée de Dominique Ducharme. Ducharme semble prêcher beaucoup de patience à l'endroit du trio de Dano en espérant que finalement ça débloque puis qu'on retrouve le trio des deux dernières années. Puis hier, il y a vraiment eu des signes positifs à ce niveau-là. Alors là, si tu te retrouves à voir Toffoli, Kotkaniemi puis Anderson sur le troisième trio, en termes de confrontation, ça devient très intéressant. Ça devient probablement, assurément, je te dirais, le meilleur troisième trio de toute la section Nord, là, la section canadienne. J'ai bien de la misère à l'appeler la section Nord. Moi, j'ai le goût de l'appeler la division canadienne.
Appelle-la comme ça, c'est bien correct. C'est accepté dans mon émission. Bon, parlons de Dano. Toujours pas de but. Oui. Là, ça fait 25 matchs de saison régulière qu'il n'a pas marqué. 45 au total, c'est inclus les séries. Et il ne faut pas oublier que son dernier but, c'était aussi dans un filet désert. Mais hier, là, il a vraiment bien alimenté Gallagher. Il a joué un excellent match. Si c'est toujours comme hier, là, est-ce que ça peut rester comme ça et qu'on en soit satisfait? Est-ce qu'il pourrait notamment signer le contrat qu'il veut comme ça, en jouant comme hier, ou si ça prend absolument des buts sur la feuille de pointage?
C'est ça. Écoute, c'est sûr que ce serait préférable qu'il y ait quelques buts, mais tu regardes, ça n'a jamais été un marqueur, Philippe Dano. L'important, c'est que son trio marque des buts. Je te parlais tout à l'heure des Cy Young. Est-ce qu'on regarde la fiche de Brendan Gallagher puis on se dit, ben c'est bien beau les buts, mais il lui manque des passes? Ben non. Pour chaque but qui est marqué, normalement, il y a des passes qui viennent avec. Alors, si ces passes-là viennent de Philippe Dano et qu'il y a des buts qui s'ajoutent au compteur, peu importe que ce soit l'un ou l'autre, l'important, c'est que ce trio-là génère de l'attaque. Et ils ont eu plusieurs chances au cours des dernières semaines sur lesquelles ils n'ont pas capitalisé. Nombre de fois, Dano lui-même avait des chances à l'emporte-pièce devant dans l'enclave, puis il tirait à l'extérieur du filet. Puis c'était un peu décourageant. Mais même s'il ne marque pas lui-même, s'il sort des pièces de jeu comme les deux magnifiques passes qui a servi à Gallagher hier soir, je pense que Dominique Ducharme va prendre ça et va dire, hey, c'est parfait, moi je mets ça à la banque, puis on laisse faire les statistiques.
Oui, on va se satisfaire de ça.
Ben oui, absolument. C'est pas. Parce que l'important, c'est que le trio génère de l'attaque. Il est assez bon pour contenir les attaques adverses, mais il faut qu'il mette des points au tableau, puis c'est ce qui est arrivé hier.
Tu as glissé un mot tantôt sur la défensive d'hier. Tu as été quand même sévère. Tu sais, avant le match d'hier, Quoi?
Ça, c'est que j'ai été un peu sévère.
Ben, non, mais t'as sûrement raison, c'est toi l'analyste. Écoute, sauf que moi, je suis là pour te rappeler des faits. Et puis, avant le match d'hier, les Jets avaient la troisième meilleure offensive de la Ligue avec une moyenne de 3,39 buts marqués par match. Puis, ils ont un des meilleurs top 6 de la Ligue. Là. Stachny, ouais. Shifley, Wheeler, Connor, Dubois, Ehlers. Tout ce beau monde-là a juste marqué un but hier. Là. Donc,
oui, absolument. Mais écoute, c'est dans une phase, je pense que ça vaut la peine que je clarifie ma pensée à ce niveau-là. Je dis pas que les défenseurs ont mal joué hier, parce que défensivement, c'est vrai que le Canadien n'a pas donné grand-chose. Il a fermé l'entrée de zone aux Jets. Ça avait été un problème pendant plusieurs matchs, de concéder la ligne bleue, de concéder le centre de l'enclave à l'adversaire. Puis hier, c'était scellé avec du gigolo. Et puis, je trouve qu'au niveau défensif, autant les défenseurs que les attaquants ont fait du très bon travail. Mon commentaire, c'était davantage par rapport à la gestion de la rondelle. Une fois que le Canadien a récupéré la rondelle dans le fond de sa zone, qu'est-ce qu'il fait pour en sortir? Je trouve que là-dessus, cet aspect-là, c'est encore en cheminement, c'est encore un work in progress. Mais écoute, en même temps, je veux pas non plus paraître inutilement sévère au lendemain d'une victoire de 7-1. Là, je pense que il faut s'en réjouir, puis il ne faut pas non plus chercher inutilement des bébites. Je vais être quand même honnête. Il y a eu suffisamment de défaites sur lesquelles il fallait être critique. Après, au lendemain d'un 7-1, on va quand même pas trop
en parler. On va la prendre. Et on peut souligner que Joel Edmondson est rendu premier de la Ligue nationale avec plus 22.
Plus 22. Ben oui, absolument. Ce qui est le fun dans le cas d'Edmondson, c'est que lui, il a gardé son rythme pendant que Jeff Petrie, son partenaire, avait une certaine baisse de régime. Puis tu sais, je sens que chez les amateurs, il y a une certaine déception par rapport au choix éditorial de Marc Bergevin de dire, ben, au lieu de faire la recherche de petits défenseurs fringants qui déplacent la rondelle, on va y aller avec une défensive plus costaude, plus imposante. Et Joel Edmondson représente un peu l'image de cette tendance-là. Sauf que il faudrait pas non plus mélanger la décision de Bergevin d'aller vers cette tendance-là, puis confondre ça avec le jeu de Edmonton lui-même. Parce qu'Edmonton, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à se reprocher depuis le début de la saison. De manière générale, je pense qu'il a donné exactement ce que le Canadien espérait avoir de lui. Puis si on veut pointer du doigt des joueurs, des défenseurs plus gros, plus robustes qui n'en donnent pas suffisamment, ben, je pense qu'on peut regarder davantage du côté de Ben Sherratt, parce que Edmonton, honnêtement, je suis agréablement surpris même de sa performance depuis le début de l'année.
Et Romanov, plusieurs disent qu'il serait temps qu'il se fasse monter de pair, qu'il joue avec Weber. Ouais. Ducharme, lui, répond à ça, qu'il ne veut pas le brûler ni lui faire sauter d'étape. Toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'il serait prêt ou pas à ça?
Ben, écoute, je pense que je pense que le Canadien continue d'acheter un peu de temps, puis il est sage de le faire, parce que même en étant sur un troisième duo, Romanov commet des erreurs de temps à autre. Je pense que ce ne sera pas seulement le jeu de Romanov qui va en dépendre, mais aussi celui de Sherratt. Est-ce que si Sherratt ne se replace pas et qu'on juge que le Canadien a besoin de faire des changements pour amener quelqu'un d'autre à la gauche de Shea Weber, à ce moment-là, ça pourrait être par la force des choses, on dit ben là, on va amener Romanov dans ce poste-là. Sauf que je comprends tout à fait l'argument de Dominique Ducharme de dire si on précipite les choses, si on l'amène trop vite là où on veut l'amener, là où on veut qu'il soit éventuellement, parce que je pense qu'il n'y a pas de cachette par rapport au fait que le Canadien voit à moyen terme que Romanov va devenir un défenseur top 4. Si on y va trop vite, ben à ce moment-là, peut-être qu'on va provoquer un recul chez lui. Puis dans le fond, l'idée, c'est de l'amener là le jour où on jugera qu'il va être prêt. C'est pas toujours évident, parce que des fois, tu sais, Claude Julien, il passait son temps à dire que Kotkaniemi n'était pas prêt à en prendre davantage, puis finalement, Ducharme arrive, il lui met Toffoli et Anderson sur ses flancs, puis ça va bien. Peut-être que dans le cas de Romanov, il va falloir réévaluer, sauf que c'est des grosses bouchées, parce que Weber affronte des gros trios.
Ouais, c'est ça.
Il joue des grosses minutes, fait que Romanov, il va falloir qu'il démontre qu'il est prêt à ça. Sauf que ce qui était intriguant hier, Evelyne, c'est que le duo Romanov et Kulak a joué quelques secondes de plus que les autres. Et ça datait même avant que le match devienne hors de portée pour les Jets. La tendance était déjà établie. Kulak était déjà le défenseur qui jouait le plus. Alors je me dis, est-ce que là on commence à mettre la table pour dire, en donnant des minutes supplémentaires à un gars comme Romanov, est-ce que on regarde de quelle manière il va réagir si on lui donne 20 minutes au lieu de 17, au lieu de 18?
C'est pas une mauvaise idée de passer par le temps de jeu au lieu du mouvement sur les paires. Ça, c'est pas une idée folle.
Ben oui, effectivement. Puis tu sais, si tu as l'occasion de pouvoir rééquilibrer ça, ça fait en sorte aussi que tu diminues la pression sur Sherratt et Weber, qui eux ont été surtaxés en début de saison, autant au même rythme que l'année dernière, mais les performances sont pas nécessairement autant au rendez-vous.
Un petit mot en terminant, Marc-Antoine, sur le prochain match. Demain, tard, contre les Canucks, sixième match contre eux cette saison, fiche de 4 victoires, 1 défaite et la défaite en tir de barrage en plus. Vite comme ça a l'air facile. Penses-tu que ça va l'être demain?
Non, je pense que facile, c'est un mot qu'il faut ôter de notre vocabulaire. c'est Claude Ruel qui, jadis, disait il n'y en aura pas de facile. Mm-hmm. Je pense que, écoute, on devrait se faire des t-shirts pour se le rappeler. Le Canadien va avoir un gros défi, parce que non seulement il n'y en a pas de facile, mais les Canucks ont retrouvé un certain semblant là de cohérence ou de cohésion depuis qu'ils ont affronté le Canadien pour la dernière fois. C'est une équipe qui se bat pour se replacer dans le portrait des séries. Mais Elias Pettersson, il n'allait pas passer toute la saison sans être productif. Alors, je pense que le Canadien fait bien de se méfier.
Pettersson, il est rendu à 21 points en 26 matchs, dont 7 aux 5 derniers.
C'est ça, exactement. C'est ça. Ben, écoute, c'est un des joueurs élites de la Ligue nationale. Alors là, l'ours s'est réveillé. Le Canadien en a profité dans les premiers matchs pendant qu'il dormait, mais là, je pense pas que ça va être le cas lors des deux prochains affrontements.
J'abonde dans le même sens que toi. Et en plus, ils ont battu Toronto 2 fois de suite. Donc,
ils ont le momentum. Tout le monde dans cette...
merci, Marc-Antoine. Toujours un plaisir. On se reparle bientôt.
Excellent.
Salut. Bonne journée. Après la pause, on est avec Marie-Ève Dicker. Je suis tellement contente. On va revenir sur son combat de vendredi soir. Malgré sa défaite, c'est loin d'être terminé pour elle. Au contraire, elle voit ça comme un apprentissage, même un tremplin. On va regarder ce qui l'attend en 2021. Bougez pas.